RCF. RCF, les racines du présent.
Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, notre invité exceptionnel, Bernard Cazeneuve. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été Premier ministre de 2016 à 2017. Précédemment, vous aviez occupé plusieurs fonctions régaliennes, ministre de l'Intérieur, ministre délégué au budget, ministre délégué aux Affaires européennes. Et puis, vous êtes également un élu local, député de la Manche, maire de Cherbourg. Et aujourd'hui, il faut le rappeler, vous êtes l'une des personnalités de gauche qui appelle au maintien des institutions dans un cadre, disons, social-démocrate. Vous nous en direz peut-être plus tout à l'heure. Vous nous proposez avec ce nouveau livre intitulé « Ma vie avec Mauriac » publié chez Gallimard, ce qu'il faut bien appeler un curieux voisinage. Vous faites revivre François Mauriac, le grand écrivain catholique, enraciné dans son terroir et sa bourgeoisie catholique, torturé par sa sensualité, admirateur de Charles de Gaulle et de Pierre Mendès France. Et vous expliquez pourquoi et comment ces mots, ceux de Mauriac, vous ont accompagné, vous ont véritablement éclairé tout au long de votre vie. Nous allons explorer ce compagnonnage avec Jean-Claude Raspienjaz. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude Raspienjaz, chroniqueur à La Croix, l'Hebdo et au Masque et la Plume sur France Inter. Et il faut le rappeler, lui-même fortement enraciné dans le terroir girondin. Voilà notre thème aujourd'hui. Mauriac peut-il toujours inspirer notre vie publique ?
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Avec aujourd'hui notre ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve pour son livre « Ma vie avec Mauriac » chez Gallimard. Alors, vous le rappelez, Bernard Cazeneuve, vous étiez un petit pied noir égaré en métropole. Vous avez été imprégné d'un socialisme anticlérical. Vous avez tenté d'incarner les valeurs d'une gauche de gouvernement. Comment donc avez-vous pu vivre avec Mauriac, puisque c'est le titre de votre livre ?
D'abord, je ne suis pas un petit pied noir. Pas que cela m'aurait gêné que de l'être, mais je ne suis pas né en Algérie. Je suis né dans l'Oise, à Senlis, en 1963. Donc j'aurais pu naître en Algérie quelques mois auparavant, si c'était possible. Bon, d'où vient cette admiration ? Du hasard des choses. Lorsque j'avais 9 ans, j'ai pris un livre dans la bibliothèque de mes grands-parents. Parmi d'autres, il y avait un livre dont le titre « Le nœud de vipère » me laissait à penser qu'il s'agissait d'un livre sur les reptiles. J'étais à l'époque, comme beaucoup d'enfants de mon âge, plongé dans les albums de Jules Verne avec ses très belles illustrations. Et je pensais découvrir un livre fantastique. Et puis finalement, j'ai été plongé immédiatement
dans un
univers moins fantastique, qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus troublé, beaucoup plus difficile, qui est celui des passions humaines. Alors bien entendu, à l'âge de 9 ans, on ne comprend pas tout du nœud de vipère, mais on comprend que les relations qui se nouent entre les personnages ont une dimension de tragédie, que ces personnages ont une profondeur d'âme exceptionnelle, et que les relations qui peuvent se nouer entre les adultes n'ont rien à voir avec celles qui peuvent se nouer entre des enfants de mon âge. Et comme j'ai une fascination pour les relations qui peuvent se nouer entre les adultes, que je sens que tout cela est quand même compliqué, ce livre me plonge immédiatement dans un univers dans lequel j'aurais dû rentrer beaucoup plus tard. C'est-à-dire celui des passions humaines.
Jean-Claude Raspienjaz.
En quoi précisément cette découverte est une découverte fondatrice ? C'est-à-dire, en effet, vous insistez dans votre livre sur la sensation que vous avez éprouvée en lisant ça, mais en quoi c'est une lecture fondatrice qui va vous mener ?
C'est une lecture fondatrice à plusieurs titres. D'abord parce que une fois que j'ai lu ce roman, j'ai du mal à retourner dans les albums illustrés. J'ai envie de comprendre davantage, j'ai envie d'en lire d'autres, j'ai envie de percevoir ce qui peut présider aux tragédies humaines. Car le nœud de vipère, c'est en réalité une tragédie. Le personnage est un véritable personnage de tragédie. On comprend qu'il court vers son destin dont il ne sait pas ce qu'il est, mais dont on perçoit dès le début du roman qu'il sera sombre.
Ouais.
On le voit rater toutes les occasions d'éviter d'assombrir ce destin, le départ de sa maison alors que sa femme le supplie de rester, le départ vers Paris, la trahison par haine de lui-même, oui. par haine de ses enfants qu'il déshérite, puis ensuite l'écriture de ce carnet intime où il dit tout le mal qu'il pense de lui-même à travers des propos peu amènes à l'égard d'autrui.
Et de ses proches, oui.
Et de ses proches. Mmh. Et comme il meurt alors que ce carnet est encore sur la table, il va laisser comme seul legs, comme seul héritage à ses propres enfants.
L'aveu.
Cet aveu, oui. mais non pas de la haine qu'il se porte à lui-même, mais de la haine qu'il aurait pu leur porter et qui ne correspond pas à la réalité. Et tout cela est irréparable puisque la mort clôt définitivement la relation avec les siens. Déjà, la mort de sa femme avait clos la relation avec son épouse, alors qu'il, au moment où elle meurt, mmh. il avoue avoir eu pour elle des sentiments finalement assez amoureux qu'il n'a jamais réussi à exprimer et dont il constate à travers sa disparition subite, il pensait mourir avant elle, qu'il ne sera plus jamais en situation de surmonter l'incommunicabilité de ses sentiments. Ce qui est un premier élément de tragédie. Puis ensuite, il y a ce carnet. C'est quand même, sur le plan romanesque, sur le plan de l'aventure individuelle et humaine, d'une grande intensité littéraire.
Tout y est. Alors vous écrivez, Bernard Cazeneuve, dans ce petit livre intitulé « Ma vie avec Mauriac » chez Gallimard, vous écrivez « Mon enfance était solitaire et le monde me semblait hostile ». Que voulez-vous dire, Bernard Cazeneuve ?
Ce que je voulais dire, c'est que très vite, je suis sorti de l'enfance, en fait. Je suis sorti de l'enfance avant de lire Mauriac. Si je n'étais pas sorti de l'enfance avant de lire Mauriac, je pense que je n'aurais pas pu le lire. Mm-hmm. Donc j'étais sorti de l'enfance avant de lire Mauriac.
Vous aviez 9 ans. Vous aviez 9 ans.
Ouais. Pour quelle raison ? Je n'en sais trop rien. Peut-être par la puissance du déracinement que mes parents et grands-parents avaient vécu, par la violence de ce déracinement qu'ils exprimaient dans une nostalgie un peu litanique qui, mmh. dès l'enfance, m'agaçait.
Ah oui.
Mais qui me donnait le sentiment quand même que la famille avait vécu des moments qui n'étaient pas très
ça
très
vous
facile.
Agaçait plus que ça vous nourrissait.
Oui, ça, je dirais même oui. que ça m'a beaucoup mmh. abîmé mon enfance, que cette
amertume.
Nostalgie. Non, c'était ouais. pas une amertume, je crois. C'était pas du tout une amertume. C'était une nostalgie pure mmh. à laquelle s'ajoutait le sentiment de la dépossession du seul bien dont il n'avait jamais été détenteur, c'est-à-dire le soleil. Le soleil et le ciel, puisque c'était une famille qui ne possédait rien. Et aussi un petit peu le sentiment de l'injustice, parce que lorsque j'étais enfant, mon père étant instituteur dans l'école dans laquelle j'étais scolarisé, beaucoup des parents savaient d'où il venait. D'ailleurs, son accent suffisait à le révéler. Et donc, dans les années 60, ceux qui revenaient d'Algérie étaient des colons richissimes dans l'esprit de ceux qui ne savaient pas grand-chose de la vie des Pieds-Noirs et de leur histoire. Et donc, je subissais aussi quelques colibés pour être le fils de l'instituteur et d'autre part le fils d'instituteur pieds-noirs. Donc je n'ai jamais vraiment connu l'enfance, j'en suis sorti très tôt, comme il me restait encore beaucoup d'années à vivre au milieu des enfants lorsque j'en suis sorti, ça n'a pas toujours été facile, et donc j'ai eu le sentiment de la solitude et j'ai comblé cette solitude par la lecture, par la réflexion, par la méditation personnelle, par le rêve, par mille choses.
Alors il y a la solitude, il y a aussi les paysages dont vous parlez beaucoup dans votre livre, donc Ma vie avec Mauriac, et vous citez ces quelques lignes de Mauriac dans Commencement d'une vie. Le ruisseau appelé la Hure et ce qu'il traîne après soi de brouillard flottant et de prairies marécageuses dispensait le soir une fraîcheur dangereuse qu'au seuil de la maison nous recevions immobile et la face levée. Cette haleine de menthe, d'herbe trempée d'eau s'unissait à tout ce que la lande, délivrée du soleil, fournaise soudain refroidie, abandonne d'elle-même à la nuit. Est-ce que vous êtes familier de ces paysages de Mauriac, de ces sentiments de Mauriac vis-à-vis de la nature ? Est-ce que vous avez cultivé les
autres ? Je ne suis pas familier de ces paysages-là, puisque au moment où je lis ces livres, je n'ai pas séjourné en Gironde. Je suis devenu après familier de ces
vous
paysages.
Vous êtes à Senlis dans l'Oise ?
Oui, je suis à Senlis dans l'Oise, dans des paysages qui sont des paysages du Valois nervalien. C'est-à-dire que mon enfance sont des paysages quand même très singuliers, qui marque l'esprit et alimente l'imagination, ce sont les paysages des Filles du Feu de Nerval. C'est la Fontaine Chaly, Mortefontaine, Ermenonville, tous ces endroits où l'on retrouve les personnages qui alimentent ces très beaux textes de Nerval. Et donc, dès ma plus tendre enfance, je suis habité par les paysages, par la forêt, par les brumes qui se lèvent au-dessus des étangs nervaliens, qui ressemblent un peu au paysage de la Sologne, par les endroits où Jean-Jacques Rousseau lui-même s'est promené, du côté d'Ermenonville. Donc tout ça, bien entendu, marque une enfance, surtout si on est sorti très vite de cette enfance pour entrer dans une relation, une communication, une communion avec les paysages, avec les lieux, ce qui était mon cas très tôt. Mmh. Lorsque j'irai en Gironde plus tard, je découvrirai ces paysages de Mauriac, mais très longtemps après avoir lu ces passages.
Il faut rappeler que vous avez étudié à Sciences Po, Bordeaux.
Oui, Bordeaux. Mmh. Et donc c'est à ce moment, et pas par hasard d'ailleurs. Hein,
c'est-à-dire
ben, c'est-à-dire que nous avions là-bas une maison qui avait été vendue, mais qui appartenait à un de mes grands-oncles, Edmond Cazeneuve. Et l'idée d'aller faire les études à Bordeaux, c'était une manière de renouer dans une famille qui n'avait pas de racines, avec la seule branche de la famille qui elle en avait, et qui était à Talence, non loin des villes où les personnages de Mauriac prennent vie et vivent soit leur calvaire, soit leur passion. La maison de ce grand-oncle était non loin de la maison où devait vivre Raymond Courrèges, le héros du désert de l'amour. Enfin, l'un des héros
et cela, vous le saviez, évidemment.
Bah, je le savais complètement, et complètement. Ce n'était pas un élément dérisoire de la motivation qui était la mienne pendant les études. Oui.
Jean-Claude Raspienjas, bordelais d'adoption.
Ouais. En quoi et pourquoi, est-ce que vous pourriez dire en quoi et pourquoi Mauriac a occupé une telle place dans votre vie, dans tout le reste de votre vie?
Bernard Cazeneuve.
Bon, bah, d'abord, par la puissance du style. Contrairement à ce que l'on aime à dire ou à écrire, je trouve qu'il y a dans le style de Mauriac quelque chose de totalement universel qui résulte de la pureté de l'écriture. On dit que l'écriture est classique, elle l'est, mais par son classicisme elle est intemporelle, et moi je suis convaincu que Mauriac sera lu encore pendant des décennies et des années comme un grand auteur de son siècle et de son époque. Le deuxième élément, c'est que les sentiments qu'il révèle, et qui sont des sentiments qui ravagent des personnages ou les consument, sont des sentiments qui renvoient au sentiment universel que l'humanité peut ressentir, quels que soient les lieux où elle vit.
C'est vraiment universel. Oui,
je pense ça. Et d'ailleurs, Mauriac le dira en 1952, lorsqu'il recevra le prix Nobel à Stockholm, il aura un très beau passage dans son discours où il expliquera qu'on croit que ces personnages sont des personnages enfermés dans la lande girondine, dans les propriétés de famille du Langonais ou de Malaga.
Et dans les névroses familiales locales.
Et qu'en réalité, il n'en est rien, que ces personnages sont des personnages qui éprouvent des sentiments universels, qui sont traversés par des passions qui ont habité l'humanité, quelles que soient les époques et les temps, et qu'il a simplement donné à ces personnages le décor de sa nostalgie d'enfant. D'ailleurs, mon livre aurait dû s'appeler normalement L'Éternel Enfant. Parce qu'il s'est appelé comme il s'est appelé parce qu'il s'inscrit dans une collection où tous les livres portent le même titre. Mm-hmm. Mais en réalité, le titre que j'aurais aimé donner à ce livre, j'ai pas voulu contrarier ceux qui avaient été à l'origine de cette collection et qui m'avaient invité à écrire ce livre, mais je l'aurais appelé L'Éternel Enfant parce que le creuset auquel Mauriac puise son inspiration, c'est incontestablement le moment où la personnalité se forge dans l'enfance et dans les souvenirs de l'enfance. La nostalgie de l'enfance, du cirque Plège qui se produit à Bordeaux jusque à la fréquentation de la nature dans la propriété de Saint-Symphorien où coule cette rivière de la Hure, jusque à l'évocation des incendies que l'on voit embraser des forêts à partir des vignes de Malagar, tout ça c'est l'univers poétique qui conduit d'ailleurs Barrès à dire à Mauriac vous êtes un grand poète, et Mauriac lui-même quand il évoque dans ses entretiens son parcours aime à dire qu'au début, son inspiration était poétique parce que c'est cette matière qui s'est sédimentée, qui s'est cristallisée tout au long de l'enfance, qui va être la source principale de son inspiration. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai aimé Mauriac? D'abord parce qu'il y a cette matière littéraire, il y a ce style extrêmement pur, et puis ensuite, il y a ce que Mauriac appelle lui-même sa pointe, c'est-à-dire la férocité du regard porté sur le personnel politique de la 4e République. Beaucoup lui reprochaient une extrême méchanceté dans la manière dont il décrivait les individus qui peuplaient le bestiaire de la 4e République.
Mais les individus qui s'accrochaient aux grilles du Palais Bourbon.
Alors c'est Bidault qui s'accroche aux grilles du Quai d'Orsay, c'est le président Joseph Laniel dont il dit qu'il y a du lingot en lui, c'est Jean Le Cannuet dont il explique que le sourire lui est insupportable et que jusqu'à son nom, qui est pour lui une source de son désagréable à ses oreilles, enfin bon, c'est pas très tendre ce qu'il raconte. Mais ces portraits-là sont des portraits qui mettent un style littéraire au service d'une acuité du regard, d'une capacité d'analyse qui fait l'intemporalité, le succès du bloc-notes. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, c'est-à-dire là aussi assez jeune, et que ensuite j'ai lu le bloc-notes, j'ai vu qu'il y avait vraiment un génie littéraire absolu et que les descriptions que Mauriac fait du personnel politique de l'époque, mais aussi les analyses qu'il livre sur le contexte, la justesse des positions qu'il prend, car il recherche systématiquement la juste position en toute chose, tout cela fait de Mauriac un personnage absolument hors du commun, et c'est ça qui m'a intéressé en fait.
Alors on va revenir dans un instant et sur le bloc-notes et puis aussi sur l'aspect profondément religieux de l'œuvre de Mauriac, mais au cœur de l'œuvre de Mauriac, au cœur de son regard sur le monde, il y a Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, en dépit du drame algérien. Alors on va écouter cette... vous avez évoqué, Bernard Cazeneuve, la férocité du regard de François Mauriac. On va écouter la voix de François Mauriac que vous qualifiez ainsi, sa voix inaudible, froissée comme un feutre usé. Voilà, on va écouter cette voix inoubliable, telle qu'elle répondait à Pierre Dumayet. C'était pendant le magazine Lecture pour tous en 1964. François Mauriac raconte sa rencontre avec Charles de Gaulle.
Vous avez rencontré le général pour la première fois le 1er septembre 1944. Paris venait d'être libéré et la conversation que vous avez eue avec lui ce jour-là vous a surprise. Pourquoi ?
Oh, elle m'a surpris parce que j'allais voir pour la première fois ce général de Gaulle qui, pour moi, était encore un mythe. J'entrais dans un Paris où les barricades étaient encore dressées. J'arrivais des environs. J'avais suivi une route où on enlevait les mines. Enfin, la bataille était à peine interrompue. Je m'attendais à voir le capitaine vainqueur de cette bataille. Et puis enfin de Gaulle, quoi. De Gaulle. Songez ce que ça représentait pour moi à ce moment-là. Et lui, évidemment, ne songeait qu'à une chose, c'est qu'il allait déjeuner avec un académicien, qu'il y avait 12 sièges vides environ à ce moment-là à l'académie. Et c'était cela qui l'intéressait. J'étais, au fond, j'étais stupéfait de voir que la libération de Paris, évidemment, c'était un événement immense pour De Gaulle, mais enfin, c'était un moment dans la bataille qu'il menait et qui dure encore après 20 ans. Et alors De Gaulle, ayant cet académicien en face de lui, eh bien, il lui a parlé de l'académie.
Il lui a parlé de l'académie alors que le fameux académicien, donc François Mauriac, espérait rencontrer le capitaine vainqueur. Bernard Cazeneuve, comment qualifiez-vous la relation particulière, qui a toujours été particulière, entre François Mauriac et Charles de Gaulle ?
Je pense que l'extrait que vous venez de diffuser est très révélateur de ce qu'a été la relation entre Mauriac et de Gaulle. Une admiration mutuelle qui empêche la rencontre.
Ah oui. Cette rencontre qui n'a jamais vraiment eu lieu.
Ouais. Mauriac regarde le général de Gaulle comme un héros, qui est le produit d'événements historiques exceptionnels. Et comme c'est un romancier, que sa capacité d'imagination est sans limite, et ses romans le révèlent, il donne au général de Gaulle une dimension supplémentaire qui est le produit de son imagination.
Le commandeur.
Voilà. Mmh. Et... il ne peut pas concevoir, alors qu'il rencontre le général de Gaulle pour la première fois, que le général de Gaulle lui parle d'autre chose que ce que son imagination a produit. Mais le héros de la France libre est aussi un homme politique. L'homme politique s'intéresse à la manière dont vont s'équilibrer les rapports de force au sein de l'Académie française, et il interroge l'académicien qu'il admire sur ce que sont ces rapports de force et ce que sont les possibles auteurs qui pourront être élus à tel ou tel siège. Bon. Il faut dire que le général de Gaulle a sur Mauriac un regard très admiratif pour des raisons qui tiennent au fait qu'il a dû avoir écho, s'il ne l'a pas lu, du Cahier Noir.
Que Mauriac avait écrit pendant la guerre.
Pendant la guerre, sous le pseudonyme de Forez, en n'ayant jamais quitté la zone occupée, qu'il a lu une partie des romans de Mauriac, qu'il a une admiration littéraire absolue pour Mauriac, et que Mauriac a écrit des textes absolument exceptionnels pendant la période, et notamment un texte que j'évoque, « Les arbres et les pierres », où il raconte comment Paris accroupi autour de son fleuve ou au pied de son fleuve retrouve sa grandeur, renoue avec son épopée, etc. Donc je pense que De Gaulle, qui a un talent de plume, comme Mauriac, talent d'analyste politique, doit avoir pour Mauriac une très grande admiration, une très grande fascination sans doute, et que peut-être pour lui être agréable, lui parle-t-il des sujets dont il imagine qu'ils sont ceux de ces centres d'intérêt.
Ils étaient peut-être trop grands l'un pour l'autre.
Oui. Ils étaient, je crois, dans une admiration mutuelle, et je crois qu'ils ne se sont jamais rencontrés. La deuxième rencontre entre Mauriac et De Gaulle, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas toute la chronologie à l'esprit, c'est la rencontre autour du sort de Brasillac, quand Mauriac va voir...
Écrivain condamné à mort.
Exactement, va voir De Gaulle pour essayer de sauver Brasillac. Mauriac n'a aucune raison d'essayer de sauver Brasillac en dehors de son aversion pour la peine de mort,
qui
réduit
le
sentiment chrétien. Non seulement il n'était pas dans le même camp, mais Brasillac avait été abject avec Mauriac. Il l'avait insulté, avait tenu sur lui des propos absolument épouvantables. Mais Mauriac, après un contact avec la mère de Brasillac, après quelques échanges avec Brasillac lui-même, dans un conflit avec Camus à l'époque, qui considérait qu'il fallait être extrêmement dur, et Mauriac lui était toujours dans cette idée de la grâce possible, du rachat possible, des individus qui ne se réduisent pas à leur faute, qui est une idée très chrétienne, se bat pour sauver Brasillac, et il sort de son entretien avec le général de Gaulle très déçu, en disant « j'ai rencontré un cormoran ». Et ensuite, il aura un désaccord avec le général de Gaulle au moment du RPF, parce que bien entendu, dans la dimension tout à fait allégorique, mythique, que Mauriac a développée du général de Gaulle par son imagination littéraire, le fait que de Gaulle puisse faire un parti est totalement orthogonal de l'idée qu'il se fait du personnage. Et puis je crois qu'ils se verront, moi c'est peu,
finalement,
c'est peu après. Il doit y avoir une rencontre à Bordeaux, dans l'occasion d'un voyage du général de Gaulle à Bordeaux. Il y a des témoignages de fidélité et d'affection de Mauriac au général de Gaulle qui conduit Mauriac à quitter l'Express, où il a été avec son bloc-notes très présent pendant des mois, et précisément parce qu'il considère que Jean-Jacques Servan-Schreiber va trop loin dans l'antigaullisme, donc il retourne au Figaro littéraire. Et ce Mauriac-là est un Mauriac admirateur d'un personnage hors du commun, qui est le produit d'une histoire elle-même hors du commun, mais qui ne rencontrera jamais vraiment le général de Gaulle. Le général de Gaulle ne le rencontrera jamais. Et tout se terminera par une lettre absolument sublime écrite par le général de Gaulle à Madame Mauriac, quelques heures après la mort de François Mauriac.
Jean-Claude Raspienjas.
Tout à l'heure, vous insistiez sur la lecture que vous avez faite du bloc-notes. Vous dites dans votre livre que c'est une source inépuisable d'informations. Qu'est-ce que vous avez appris en lisant le bloc-notes, justement ?
Bernard Cazeneuve.
J'ai appris plusieurs choses en lisant le bloc-notes. D'abord, j'ai appris ce qu'avait été le vrai combat de François Mauriac contre la colonisation. À quel point il avait été engagé dans ce combat, à quel point il avait été proche de ceux qui étaient vilipendés, insultés pour avoir osé monter à la tribune de l'Assemblée nationale pour engager le pays dans la voie de la décolonisation, je pense plus particulièrement à Pierre Mendès France, à quel point il avait été engagé aux côtés des Marocains, des jeunes Marocains, pour condamner les dérives du protectorat.
Et contre son milieu d'origine,
contre tous ceux qui avaient constitué son environnement, à la fois comme journaliste, comme intellectuel, sur le plan familial, tout ce qu'il décide de défendre comme cause juste, il le défend en s'affranchissant de son propre univers et de son propre milieu. Il n'y a pas affranchissement plus courageux avec l'obsession de la juste position, c'est-à-dire de la vérité, que chez Mauriac. C'est ça qui fait mon admiration en réalité. Mais moi je considère qu'il n'y a pas, j'ai fait un peu de politique dans ma vie, je considère qu'il n'y a pas d'engagement politique qui vaille, qui ne s'articule à une idée très élevée de la liberté. Et je pense qu'il n'y a pas d'engagement politique qui vaille, qui ne s'articule à une conception très profondément ancrée de l'altérité. C'est-à-dire le refus dans le combat politique, qui peut être rude, il m'est arrivé de m'opposer rudement à certains adversaires, d'utiliser à l'égard de ses adversaires des insultes, des injures, des manières de combat qu'on n'envisagerait pas, qu'on puisse utiliser à l'égard de soi-même. Eh bien, tout cela, c'est ce que Mauriac porte de grandeur, de dignité, de courage, de liberté. Et c'est ce qui fait fondamentalement mon admiration pour lui. Et comme on ne peut pas distinguer l'auteur du bloc-notes de l'écrivain, parce que ces deux personnages ne font qu'un, le bloc-notes n'aurait aucune valeur si l'écrivain n'a pas eu le talent de plume qu'on lui reconnaît. Et je pense que l'écrivain n'aurait pas eu la force qui est la sienne s'il n'avait pas eu la capacité à entrer... plonger une torche dans les ténèbres de l'âme humaine, pour reprendre l'expression qu'il utilise lui-même. Et cette unité-là, qui est la seule unité finalement de François Mauriac, parce que tout le reste est complexité, donne une force à la liberté, à l'engagement, à la recherche de la juste position qui est exceptionnelle.
Mais alors, allons plus loin, si vous voulez bien, Bernard Cazeneuve. Vous écrivez dans votre livre « Ma vie avec Mauriac », publié chez Gallimard, vous écrivez « Les sentences de Mauriac, sans y changer un mot, pourraient venir qualifier les temps présents et rappeler à leur vraie nature ceux qui contribuent à les obscurcir de leur vacarme nihiliste. Une musique s'est interrompue, un style incandescent, comme une braise couvant toujours sous le feu, s'est tue, et la passion de la vérité, exigeante et impitoyable, a peu cédé le pas à la rage dénonciatrice et parfois haineuse des révoltés par posture. » Tel est notre temps présent à vos yeux, Bernard Cazeneuve?
Un peu, non. Je pense que vous n'êtes pas totalement absent du monde dans lequel nous vivons. Vous devez voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Ou à l'Assemblée nationale.
Ou à l'Assemblée nationale. Vous devez voir quelles sont les modalités d'expression d'un certain nombre d'acteurs autosatisfaits.
Comment vous vivez cette évolution, vous?
Comme,
Bernard Cazeneuve.
Comme un affaissement de notre système politique. De ce que Max Weber avait appelé l'éthique de la responsabilité, et donc comme un sujet de grande préoccupation, parce que peut-il sortir de cet état où nous sommes, à part la confrontation de tous contre tous et l'effacement progressif de tout ce qui fait la démocratie dans le respect de ses institutions, de ses principes,
tout ce qui fait ou tout ce qui faisait.
Non, tout ce qu'il fait encore. Mais il faut faire attention parce que tout ça est fragile. Je suis bien placé pour vous dire que les partis politiques sont mortels.
Le Parti Socialiste en est un exemple, les Républicains également.
Les institutions aussi, donc il faut faire attention.
Jean-Claude Raspinjas.
Comment en sortir,
Bernard Cazeneuve?
On ne peut en sortir que en faisant, pour ceux qui portent une parole publique, un effort sur nous-mêmes. C'est-à-dire en refusant d'accompagner ce mouvement. Alors c'est très difficile de résister, surtout avec l'émeute constituée qui déferle sur les réseaux sociaux et qui vous insulte dès lors que vous ne pensez pas comme eux pensent qu'il convient de raisonner. Je vois jusqu'à la police des vêtements se réinstaurer. Là, j'entendais des responsables de la France Insoumise dire « Mais Cazeneuve, c'est un homme d'un autre temps, il porte des costumes, des cravates, etc. »
Peux en témoigner.
tout ça est vrai, d'ailleurs. Je porte des costumes, des cravates, mais comme d'autres avant moi l'ont fait, auxquels on prêtait bien des vertus réformatrices. Ce qui est intéressant, c'est pas le fait que je porte des costumes et des cravates, c'est ce que ces esprits-là en déduisent. Mais c'est pas la première fois. Vous savez, Thorez avait sur Blum, en 1939, des mots extrêmement durs, mais qui puisaient non pas à ce que Blum faisait et pensait, mais à son apparence.
Ou à sa vaisselle.
Et à son apparence. Donc on connaît ça par cœur. Et ça vient
la même chose.
Ça vient toujours des mêmes endroits. Et vous remarquerez d'ailleurs que à chaque fois que cela se produit, c'est qu'on est dans une période de,
d'affaissement
et d'effondrement. Donc, je pense qu'il faut, par le comportement individuel, résister à ça, ne pas se laisser impressionner, être capable de dire très calmement et sans jamais utiliser à l'égard de ceux qui vous insultent l'injure, de dire ce que l'on croit juste et de le dire avec la plus grande sincérité, le plus grand calme.
Est-ce que c'est audible aujourd'hui? Est-ce que c'est audible aujourd'hui?
Vous savez, si l'on considère que ce qui est juste n'est pas audible au motif que c'est couvert par le bruit de tous ceux qui racontent n'importe quoi, il faut mieux se coucher et mourir. Bon, moi je ne pense pas qu'il faille se coucher et mourir. Je pense qu'il faut au contraire résister, dire ce que l'on a à dire. On doit privilégier le fond sur la forme, même si parfois lorsque la forme est pitoyable, elle est révélatrice de ce que le fond peut avoir d'abjection. Ce n'est pas exclu.
Le vide.
Non, je pense qu'il faut tenir, il faut expliquer, il faut accepter d'affirmer ses convictions, il faut accepter d'être différent de du flot panurgiste de ceux qui veulent imposer leur bruit et leur vacarme, et puis essayer de faire en sorte que ce à quoi on croit puisse prévaloir.
Alors vous écrivez quelques lignes dans votre livre « Ma vie avec Mauriac » d'Bernard Cazeneuve autour de mai 68, et ça rejoint la personne du général de Gaulle. Vous écrivez « Qui de mon père ou de ma mère aurait pu alors deviner que c'était cette peur-là qui me faisait écouter religieusement le général de Gaulle comme on écoute un grand-père bougon qui dit à chacun son fait avec pour dessein de ramener tout le monde à la maison. La France a-t-elle besoin d'un grand-père bougon, Bernard Cazeneuve ?»
Je ne sais pas si elle a besoin d'un grand-père bougon, mais ce que j'évoque à travers ces pages, c'est le sentiment qui était le mien. J'avais 5 ans en 68, je voyais ce personnage-là qui sortait de l'écran noir et blanc, à l'époque nous n'avions qu'une chaîne de télévision, avec le sentiment qu'il me donnait à l'époque de m'originer tout le monde de la belle manière, pour prendre une expression qu'on utilise dans pièces de Molière. Et donc moi ça m'impressionnait comme enfant. Franchement j'avais peur que le général de Gaulle se pointe et remette tout le monde à sa place. Mais j'étais un enfant,
ouais.
Et donc j'avais là aussi une propension d'imagination qui est à l'imagination qui est celle des enfants. En tous les cas, nous avons besoin de sens. Au sens de direction. Nous avons besoin de la force de ceux qui pensent que la France est plus grande qu'eux-mêmes. Quand je réfléchis avec le temps à ce que ces interventions du général de Gaulle symbolisaient ou signifiaient, c'est que le général de Gaulle, en dépit de son style, en dépit de ce qu'il charriait d'épreuves présentées à sa personne et à son peuple par l'histoire, et vivait avec la conviction que le pays à la tête duquel il était et qu'il avait contribué à sauver du pire, ce n'est pas rien, ce n'est pas beaucoup de Français auxquels est arrivé de devoir se positionner de la sorte, et ce pays-là était plus grand que sa personne qui dans l'histoire est demeurée immense, ce qui est vrai. Et ça, c'est quand même autre chose en termes de comportement que la névrose narcissique qui semble s'être emparée de beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont dans la sphère politique.
Alors vous expliquez dans votre livre « Ma vie avec Mauriac », Bernard Cazeneuve, que votre éducation politique s'est faite en partie grâce à la télévision. Et à la télévision, il y a des grands génériques d'émissions politiques qui vous ont marqué, qui vous faisaient frémir même, écrivez-vous. Alors on va réécouter quelques instants dans un voyage dans le temps. On va réécouter le générique d'une émission qui s'appelait « Allez, je ne le dis pas et nous allons le deviner, on écoute ». Voilà, Bernard Cazeneuve, vous avez reconnu le générique de...
C'est Armes égales, non ?
7 sur 7, je pense.
7 sur 7 ?
7 sur 7. Pourquoi ces émissions ont-elles été si importantes dans votre construction personnelle ?
7 sur 7, ça arrive beaucoup plus tard.
Oui, c'est plus tard. Vous, c'était plutôt Armes égales.
Oui, moi, c'est plutôt Armes égales, qui était une émission qui était animée par Alain Duhamel.
Voilà.
7 sur 7, j'étais déjà très en âge de m'engager. J'avais déjà eu l'occasion de voter pour François Mitterrand, de faire sa campagne, etc. Mais Armes égales, c'est une émission dont le générique renvoie davantage, si j'ai bonne souvenance, à la musique de films à suspense, un peu noir. Tout était en noir et blanc. Et les personnages qui débattaient à l'occasion de ces émissions avaient un maniement de la langue française qu'on a perdu, une connaissance des dossiers qu'on aimerait voir prévaloir et des convictions qui rendaient la politique compatible avec la sincérité.
Ce sont les trois éléments de base d'une vie politique saine.
Ce sont trois éléments qui ne peuvent pas nuire.
Oui, qui ne peuvent pas nuire, mais qui semblent singulièrement absents aujourd'hui quand même. On va retrouver la voix de François Mauriac, cette voix froissée comme un feutre usé, telle que vous la décrivez, Bernard Cazeneuve, dans votre livre « Ma vie avec Mauriac » chez Gallimard. C'est François Mauriac qui répond à la télévision canadienne et il raconte la genèse de son roman « Un adolescent d'autrefois ».
Eh bien, ce Mauriac romancier, je le croyais moi-même bien mort, puisque il y a 15 ans que je n'ai plus écrit de roman. Oh, vous n'y avez pas renoncé délibérément. Cela s'était fait tout seul. Vous savez, on est le romancier d'une génération. Ce n'est pas que mes derniers romans n'aient pas eu ce qui s'appelle du succès, mais je n'étais plus un des générations, un des romanciers de la génération actuelle. Et ce silence s'est établi en quelque sorte sans que je l'aie décidé. J'avais remis ma copie. Et puis, à force d'être encore là, si vous voulez, à force de ne pas mourir, peut-être que ce vieil instinct du romancier est revenu. Il m'arrivait de commencer une histoire que je remettais ensuite dans le tiroir. Et cela va peut-être vous étonner, mais c'est pendant les événements de mai dernier où j'étais, comme beaucoup de Français, extrêmement énervé, que ne sachant trop à quel saint me vouer, j'ai repris une de ces histoires que j'avais commencées et je me suis mis à travailler. Et le vieux moteur s'est remis en mouvement. Et à partir de là, je ne me suis plus arrêté. Et j'ai écrit un roman qui va paraître.
Et ce roman, comment va-t-il s'intituler ?
Il va s'intituler d'un titre que les jeunes gens me disent être un très mauvais titre. C'est « Un adolescent d'autrefois ». Moi, je tiens beaucoup à ce titre parce que c'est le roman, c'est l'histoire d'un adolescent d'autrefois, c'est-à-dire qui avait 20 ans en 1910, comme moi. Mais il paraît que le mot « autrefois » suffit à éloigner beaucoup de lecteurs aujourd'hui.
Mais le nom Mauriac suffit à en rapprocher beaucoup.
Voilà, je l'espère.
Cet adolescent d'autrefois vous ressemble donc comme un frère.
Il me ressemble certainement comme un frère et il n'est pas moi. Je veux dire que toute l'histoire que je lui prête n'est pas du tout la mienne. Enfin, du moins, dans ses grandes lignes, ne m'est pas arrivée. Seulement, c'est exactement, si vous voulez, l'atmosphère de mon adolescence et l'atmosphère religieuse dans laquelle j'ai baigné et qui, même en 1905, était déjà, comment dirais-je, enfin, assez singulière. Je veux dire que j'ai eu une éducation très singulière, même à mon époque.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
François Mauriac, en 1969, répondait aux questions de la télévision canadienne et nous racontait la genèse de son roman « Un adolescent d'autrefois ». Le vieux moteur s'était remis en route. Et puis les jeunes gens, dit-il, lui expliquaient que le mot « autrefois » n'était pas très vendeur. Et pourtant, le vieux maître a maintenu ce mot. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, est avec nous. Il publie « Ma vie avec Mauriac » chez Gallimard. Alors vous avez entendu comme nous, Bernard Cazeneuve, François Mauriac, qui évoque cette atmosphère religieuse dans laquelle il a baigné quand il avait 20 ans en 1910. En quoi cette atmosphère religieuse a-t-elle pu vous rejoindre, Bernard Cazeneuve ?
En rien.
Voilà.
J'ai été élevé dans un tout autre contexte et dans une famille laïque. Moi, je suis agnostique. Je, je, Je ne l'ai jamais pratiqué.
Alors
mais ce n'est pas le cas de Mauriac. Mauriac a toujours vécu dans cette atmosphère religieuse avec sa mère et sa grand-mère. Il a perdu son père très jeune, à l'âge de 18-20 mois. Son père, qui était un libre penseur, en tous les cas, qui était proche des libres penseurs, et dont il disait que tous les vendredis, il avalait une belle côtelette pour bien manifester à son épouse.
Je rappelle que le vendredi était le jour maigre.
Oui, c'est
pour
ça.
Pour nos auditeurs qui l'auraient oublié.
Exactement.
Voilà.
Et Mauriac explique que son père se comporte ainsi pour bien manifester la distance qui était la sienne avec les convictions de sa propre mère. De sa mère, il disait d'ailleurs qu'elle avait une conception, c'est très joliment dit, espagnole de la religion. Alors que voulait dire Mauriac quand il parlait d'une conception espagnole, c'est-à-dire une conception vraisemblablement...
Doloriste.
Doloriste, superstitieuse, accordant beaucoup d'importance à la liturgie, et incontestablement conservatrice, pour ne pas dire totalement traditionnaliste. Et en même temps, là aussi, si l'on considère l'engagement religieux de la famille Mauriac, on constate qu'à toutes les étapes, Mauriac fait un choix qui, tout en restant fidèle à cet héritage, puisqu'il est un écrivain catholique et que le message du Christ dans sa dimension universelle a inspiré son œuvre jusqu'à la fin, s'affranchit de cette conception dite espagnole de la religion. Il aurait pu être maurassien, comme l'un de ses frères. Il est comme beaucoup, il est dans le sillon de Marc Sangnier. Il aura affronté les maurassiens très durement, y compris lorsqu'il sera candidat à l'Académie française et plus tard à l'Académie française. Il fait le choix de soutenir les républicains espagnols contre le clergé catholique français espagnol à l'époque. Pas tout à fait facile.
Ce qui était très complexe à l'époque.
Exactement. Sur la colonisation, il prendra les positions que j'évoquais tout à l'heure. Donc cette conception religieuse, ou en tous les cas cet attachement, pour être plus précis, de Mauriac au christianisme, au message universel du Christ, et qui va présider à tout son engagement, mais aussi à toute son œuvre, renvoie, c'est comme ça que je le perçois, à la dimension universelle du message du Christ. Et il y a une dimension d'universalisme chez Mauriac.
C'est ça qui vous a touché.
Ça, en revanche, ça me touche énormément, parce que moi qui suis un enfant des Lumières, du rationalisme, qui reprend à son compte politiquement le message de la Révolution française, pas les excès, mais le message de la Révolution française, je suis pour ma part très universaliste. Et aujourd'hui encore, dans les combats politiques l'universalisme est au cœur des choses, y compris dans ce qui me différencie d'une certaine gauche, qui considère que la société est une juxtaposition de segments auxquels il faut parler comme on parle à autant de clientèle. C'est pas du tout mon approche. Donc ça, oui, bien entendu, ça me rapproche beaucoup de Mauriac. C'est la dimension universelle du message du Christ qui peut rejoindre l'ambition universelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui a présidé beaucoup cet engagement universel du message du Christ au combat de Mauriac, et qui a pu présider aussi à tous les combats que j'ai menés, que je continue de mener. Et puis par ailleurs, il y a un autre élément qui me paraît tout à fait intéressant chez Mauriac, c'est que Mauriac ne réduit pas les individus à leur faute. Aucun des personnages de Mauriac n'est réduit à ses fautes.
Ça, c'est très chrétien.
Oui, c'est très chrétien.
Pas seulement.
Non, c'est pas très chrétien. C'est aussi, si je puis dire, très à gauche.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que moi, une grande partie de mon engagement dans la gauche humaniste résulte du fait que chaque individu qui commet une faute doit pouvoir avoir une chance de retrouver sa place dans la société, et que personne ne doit être définitivement condamné, rejeté, exclu, mis aux marges en raison des fautes qu'il a commises. Et je me souviens très bien que lorsque des grands humanistes comme Badinter se battaient contre la peine de mort, dénonçaient les conditions dans lesquelles les prisonniers pouvaient être détenus, ils se préoccupaient de savoir si ces conditions de détention n'étaient pas une manière de les condamner à tout jamais à rester à la marge, à demeurer à la marge de la société, sans aucune possibilité pour eux de se réinsérer.
Et ça, Mauriac aurait pu le
dire. Et ça, pour moi, c'est un très grand et beau combat que celui qui consiste à considérer qu'aucun individu ne peut être réduit à ses fautes. Alors, bien entendu, chez Mauriac, ça prend une dimension particulière à cause de sa foi chrétienne. Pour lui, le rachat, c'est la grâce. Voilà. Il faut toujours que
et
la
c'est
grâce.
C'est le mot sur lequel vous terminez votre livre,
oui,
Bernard Cazeneuve.
Soit là au bout du chemin, oui.
Au bout du chemin.
Par fidélité à ce qu'est sa pensée à lui, pas à la mienne. Mais j'ai fait un livre pour expliquer aussi ce qu'était la relation avec cet auteur. Et la moindre des choses que je pouvais faire, parce que je lui devais cela, c'était de terminer par un mot qui correspondait à ce qu'était son engagement et pas le mien. C'est pas un livre sur moi, c'est un livre sur lui. Et, ou en tout le cas, c'est un livre sur notre relation, sur notre relation immatérielle, intellectuelle. Mais enfin, j'ai trouvé que c'était une belle manière de terminer avec cette idée qu'aucun individu ne se réduit jamais à ses fautes. On est très loin de la cancel culture, vous conviendrez avec moi.
Hein. Jean-Claude Raspienjas.
Précisément, cette dernière phrase de votre livre ne se résume pas à l'idée de la grâce, mais vous parlez de la promesse d'une possible grâce. Est-ce que c'est un vœu qu'on peut entendre pour vous-même,
Bernard Cazeneuve?
Mais pour que je forme ce vœu pour moi-même, il faudrait que j'ai commis autant de fautes que Thérèse d'Esquerou. Et je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote à ce sujet qui m'a beaucoup amusé. Je reçois une lettre il y a quelques jours d'un lecteur du livre qui me dit, qui commence la lettre par « Cher confrère ». Une lettre qui m'a beaucoup touché, j'ai trouvé très belle, très bien écrite. « Mes chers confrères, je vous écris parce que vous êtes avocat et que vous avez écrit sur Louis Furmauriac. Figurez-vous que lorsque j'étais à la conférence du stage, et nous avions organisé une fausse plaidoirie autour de Thérèse d'Esquerou. Et donc j'étais l'avocat de Thérèse d'Esquerou dans cette plaidoirie. Et Mauriac était le président du jury. Et donc j'ai plaidé pour Thérèse d'Esquerou. Et il me dit, mais figurez-vous qu'à la fin, Mauriac était extrêmement heureuse de cette séance, etc. Il est venu me voir et il m'a dit, vous savez, maître, elle était coupable.
Quelle chute, Jean-Claude Raskovas.
Mauriac, c'est aussi l'écrivain de la tristesse, de la nostalgie, de ce passé perdu, de l'adolescent d'autrefois. Est-ce que c'est des sentiments qui vous habitent, ça?
Bernard Cazeneuve.
Non, mais je n'ai pas de nostalgie du passé au sens où le passé constituerait les temps heureux ou les jours heureux. Pour prendre l'expression de l'actuel leader du Parti communiste. Je n'ai pas de nostalgie d'hier, au sens où hier aurait constitué une époque radieuse qui n'existera plus et dans laquelle on
néanmoins, puise. Néanmoins, vous faites allusion depuis le début de l'émission à l'abaissement, à...
Mais ça, c'est pas inéluctable. On a
à des rhétoriques perdues,
oui,
à des idéaux perdus.
Non, mais ça, ce n'est pas inéluctable. D'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout dans l'idée que hier était formidable et qu'aujourd'hui est une période d'affaissement à laquelle nous sommes condamnés. Sous la fin de la 4e République, c'est quand même pas très glorieux. Le système de partis, les combinaisons... La minorité du personnel politique, d'ailleurs.
Mais il
très
a fallu
bien...
De Gaulle pour en sortir.
Oui, d'accord, mais enfin, donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, quelque chose est possible.
Oui. Bon,
à la fin de la Troisième République, la situation est absolument épouvantable.
Et ils ont voté les pleins pouvoirs à Pétain.
Oui, exactement. Bon, donc on a quand même vécu des moments d'abaissement, d'affaissement, de médiocrité politique, mais on en est toujours sorti parce que nous sommes un grand peuple.
Vous croyez en la résurrection, Bernard Cazeneuve?
Non, je ne crois pas à la résurrection, je crois à l'intelligence du peuple français. Mm-hmm. Et je pense que tous ceux qui spéculent sur les instincts d'un peuple qu'ils ne jugent pas suffisamment intelligent pour parler à son intelligence, précisément, se trompent et le trahissent. C'est ça que je pense. Et je pense qu'il faut parler à l'intelligence des Français.
C'est encore possible.
Mais c'est pas possible, c'est un devoir.
C'est indispensable.
Parce que ce peuple est un grand peuple et qu'il a montré, y compris dans les périodes où il était le plus affaibli, de la capacité qui était la sienne, à ressurgir, à donner un coup de talon, à retrouver ses forces, à les puiser au plus profond de lui-même. Les valeurs, les principes et qui correspondaient à ce qu'est sa longue histoire pour essayer de renaître et de revivre. Et ça, je crois que c'est tout à fait possible. Donc je ne suis pas nostalgique au sens où je considère qu'il y a une période passée qui correspondrait à un âge d'or qui ne reviendra plus et que nous serions condamnés aujourd'hui à la médiocrité du temps. En revanche, je suis nostalgique au sens de la Madeleine. C'est-à-dire que les sensations, les parfums, les lumières, les paysages qui, à un moment donné, ont procuré un sentiment de bonheur, d'émotion, de mélancolie, des regards de membres de ma famille disparus, tout ça reste extraordinairement présent. Et,
comme chez Mauriac.
La simple évocation par la convocation de la mémoire de ces moments suffit à les faire revivre et à me plonger effectivement dans des souvenirs qui sont très loin de me laisser indifférent. Donc dans ce sens-là, je suis nostalgique au sens où les souvenirs d'hier qui puisent au creuset de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence, constituent la matière d'une vie intérieure encore très dense. Mais c'est pas... Vous voyez, moi quand je relis quelques textes d'autres personnalités politiques... je pense à Mitterrand quand il évoque ses lectures dans le grenier de des grands-parents à tout vent, ou certains textes de Pompidou évoquant son enfance, ou des très beaux textes de Saint-Gore écrits en captivité au pied d'un arbre alors qu'il est jeune normalien. Je retrouve la même capacité d'évocation de
vous situez dans ce lignage.
Non, je me situe pas dans ce lignage-là parce que ces personnages sont considérables et que moi je reste à ma place. Mais je me situe dans ce que tous ces souvenirs ont pu m'apporter de sensations, de sentiments, c'est tout.
Jean-Claude Raspeyras.
Il y a une tradition politique française qui consiste à ce que les hommes politiques qui ont une ambition élevée passent par des travaux littéraires, ou en tout cas montrent leur culture littéraire. C'était le cas évidemment de De Gaulle, c'était le cas de Mitterrand, et ça a été le cas de Georges Pompidou. Est-ce qu'il faut voir dans votre livre sur Mauriac le début d'une ambition et l'aveu d'une ambition nationale qui tarde à venir ?
Bernard Cazeneuve.
Mais j'aurais préféré que vous perceviez dans ce livre le début d'une ambition littéraire.
Mais nous l'avons perçu. Bon, mais voulons aller au-delà parce que nous arrivons au terme de cette émission.
Alors, pourquoi faudrait-il à chaque fois... Pour reprendre sur ce terme...
Non, mais pourquoi faudrait-il à chaque fois que l'on pose, que l'on fait un travail ou que l'on s'engage dans une réflexion qui a quelque chose à voir avec l'authenticité ou la sincérité, ce soit nécessairement le fruit d'autre chose que cela, et notamment le fruit d'une arrière-pensée.
Alors je vais prendre la question autrement. Pourquoi la nécessité chez vous de ce livre ? Ça répondait à quelle nécessité profonde, intime, personnelle ?
Bernard Cazeneuve.
Non mais... Je pense que ce livre, il a été écrit pour les mêmes raisons que celles qui m'ont conduite par hasard à tomber sur le nœud de vipère. Je parle avec François Sureau, qui est à l'origine de cette collection, de son Apollinaire. Nous parlons des auteurs que nous aimons. Je lui fais part de mon intérêt pour Mauriac et je lui explique les raisons pour lesquelles j'ai cet intérêt. Il me dit, mais ce serait pas idiot finalement que vous fassiez un livre sur cet auteur. Arrive le confinement. En une soirée, nous partons précipitamment à la campagne pour quelques semaines.
Comme beaucoup.
Et là, je me dis, bon, je poursuis mon activité professionnelle, mais il faut quand même, on ne sait pas combien de tout cela va durer, trouver une occasion de lumière, de stimulation, d'intérêt. Et à ce moment-là, je me mets à écrire ce livre. Mais je me mets à écrire ce livre sans autre idée que celle de passer l'époque du confinement. Et puis le confinement se termine, ce livre n'est pas terminé, je le termine plus tard. Et quand il est terminé et que je le donne à François Sureau, François Sureau me dit il faut publier ce livre. Donc j'écoute les conseils de François
Sureau.
Donc
c'est le fruit de circonstances, indépendant de votre
volonté. Absolument
de
circonstances.
Alors il nous reste, si vous voulez bien Bernard Cazeneuve, il nous reste juste quelques minutes. Parlons un peu de la gauche, des gauches. Les gauches sont-elles véritablement irréconciliables aujourd'hui ? On entend une montée en puissance d'une gauche insurrectionnelle, révolutionnaire, qui veut bouleverser les institutions. On entend de moins en moins une gauche social-démocrate, une gauche dite de gouvernement. Où en sommes-nous à vos yeux, Bernard Cazeneuve, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'aurait pu dire Mauriac aujourd'hui de ces gauches ?
Non mais d'abord, moi je ne vais pas me mettre à faire parler Mauriac 50 ans après sa mort sur une réalité qui n'a pas vécue. Ce que je pense, c'est que aujourd'hui il y a un risque dans le pays, c'est le risque du Rassemblement National. Bon. Le Rassemblement National retrouve une respectabilité à bon compte. Je pense que sa nature n'a pas du tout changé, mais que le comportement de ceux qui oublient de le combattre vraiment efficacement, comportement vociférant, insultant, injuriant, démagogique, permet à ce parti dont la nature n'a pas changé à bon compte d'avancer sans n'avoir plus besoin de dire quoi que ce soit. Je pense par ailleurs que il y a dans les circonstances particulières où nous nous trouvons, un devoir de responsabilité. Nous sommes quand même dans un contexte très singulier. La guerre qui revient sur le continent européen, les atrocités commises à l'égard des populations civiles en Ukraine, l'inflation qui ressurgit alors que depuis 40 ans on l'avait vu disparaître, les problèmes de pouvoir d'achat que cela pose, le sentiment de l'injustice qui s'accroît, parce que l'injustice réelle s'accroît, les désordres du monde, partout dans le monde, il n'y a pas un continent qui soit garanti d'avoir la paix, le terrorisme qui continue de ronger l'Afrique, les milices de Wagner qui sèment la désolation, la situation en Syrie qui, dans la plus grande indifférence, permet à Bachar el-Assad de continuer à massacrer son peuple, les ambitions de puissance de la Turquie qui utilise des moyens hybrides, ce classique de la souveraineté, mais aussi les cyberattaques et ce moins avouable qui conduisent à la mobilisation de groupes de hackers, la propagande diffusée en Ukraine et en Europe par la Russie.
Donc, on a vu les conséquences qu'elle a pu avoir. On peut évoquer.
Exactement. Donc, il n'y a pas une région du monde où la paix soit garantie. On voit le multilatéralisme reculer, on voit le sentiment européen s'effacer, on voit des partis d'extrême droite surgir en Europe avec des peuples qui finalement s'en accommodent. Donc nous sommes, en tous les cas c'est le sentiment que j'en ai, dans une période de grand basculement. Est-ce qu'il faut face à cela convoquer le bruit, organiser la confrontation de tous contre tous, se mettre à excommunier ses adversaires, les injurier quotidiennement, réinstaurer le sectarisme dans sa forme chimiquement la plus pure? Faut-il que la gauche se condamne à ne plus jamais gouverner au motif qu'elle se serait reconstruite intellectuellement et politiquement à ses marges? Je ne pense rien de tout cela. Et je pense là aussi qu'il faut avoir le courage de résister, de reconstruire, de rebâtir autour de quatre axes qui sont non pas les quatre axes du retour en arrière, mais les quatre axes de la fidélité à une histoire qui doit pouvoir se projeter dans l'avenir en embrassant les grands défis auxquels on est confronté. Le premier axe, c'est la République, dans ses principes et ses valeurs, absolument, et je dirais même radicalement, comme les radicaux au début de la Troisième République l'ont souhaité, la laïcité, le vivre ensemble, l'altérité. Il y a une bataille culturelle républicaine à mener. Deuxièmement, le lien entre l'efficacité économique et la justice sociale, qui passe par une réflexion très profonde sur une nouvelle gouvernance des entreprises donnant davantage de place aux salariés. Troisièmement, la lutte contre le réchauffement climatique sans la décroissance, sinon il n'y a plus de justice sociale possible. Et enfin, l'Europe et le multilatéralisme dans un monde qui peut basculer. Voilà les quatre axes autour desquels il faut réorienter la gauche.
Un grand merci à vous, Bernard Cazeneuve. François Mauriac nous a conduit à parler en cette fin d'émission, enfin, en cette fin d'édition des Racines du présent. Eh bien, vous a conduit à évoquer le présent. Je rappelle que nous étions pendant cette heure en compagnie de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, autour de son livre que je vous recommande car il est passionnant, Ma vie avec Mauriac. C'est publié chez Gallimard. Nous étions également en compagnie de Jean-Claude Raspienjas, chroniqueur à La Croix l'Hebdo et au Masque et la Plume sur France Inter, et nous avons, je crois, amplement répondu tous les trois à la question qui était posée aujourd'hui dans cette édition des Racines du présent. Mauriac peut-il toujours inspirer notre vie publique? Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Bernard Cazeneuve sur le site de RCF, et vous pouvez bien évidemment nous écouter en balado-diffusion, en podcast à partir de votre plateforme de diffusion préférée. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.